Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Je me suis demandé aujourd'hui s'il n'y avait pas un inconscient fil rouge entre les émissions de chaque semaine. Tout à fait indépendamment de nous cette fois-ci, elles se tiendraient la main et se relieraient dans un jeu secret de reflets, par exemple depuis lundi, de reflets dans les rivières, dans le soleil de certains villages le dimanche matin, dans la jubilation poétique et politique du jeu, dans la course des enfants et des autres, et dans nos peurs. Autant d'éclats qui scintillent dans votre musique en général, Marie-Lionel Limignana, et dans votre dernier disque Shadow People en particulier, malgré l'ombre du titre. Votre groupe s'appelle De Limignanas, votre disque paraît sur le label Because, vous y jouez Marie de la batterie, des percussions et des chœurs sur certains morceaux, et Lionel, les guitares fuzz, orgue, stylophone, microcorde. Vous chantez aussi. Bonsoir à tous les deux, bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et on dit bonsoir à tous les invités de ce disque qui sont avec nous forcément par la magie des ondes. Et on remonte notre horloge en 2001.
Et on a vu par contre hier des jeunes gens qui se tenaient très très bien. Hein. Fini les...
Hein, ah, complètement décontracté. Bernard Albrecht, qui est quand même un type qui n'a jamais parlé au public pendant presque 20 ans de carrière, arrive sur scène et dit « Bonjour, je m'appelle New Order. Oui. Bonjour, je m'appelle Bernard. Bonjour, il s'appelle Pierre. Bonjour, il s'appelle Stéphane.
» Et fais gaffe, il va peut-être...
Et mon colline.
Il va peut-être refaire la même chose. Alors j'ai eu un petit compte-rendu d'un auditeur qui était déjà là hier et qui a l'intention de revenir ce soir. Il dit « Bonjour à tous, j'aimerais vous raconter comment j'ai vécu le grand retour du Fab Four, le moins un désormais de Manchester, 10 ans d'attente, 10 ans qui ont semblé presque interminables. Le voile pouvait enfin être levé sur leur tête si familière. Ils ont tous pris 20 kilos, sauf Stephen Morris qui s'en sort le mieux. Il ressemble encore tellement au merveilleux batteur de Joy Division, ou qui, très à l'aise avec sa basse en rase-motte, accuse quand même le coup physiquement. Alors que Barney garde ce physique d'éternel adolescent romantique et sa coupe de cheveux légendaire reste sur le côté, démarcation très prononcée, limite jeunesse hitlérienne quand même.
Oh, comment il y va
Il y a trois pages comme ça et c'est vachement bien, c'est à peu près ce que j'ai pensé de ce concert où on a vu des choses formidables. Ils ont raté 2-3 titres, voilà, c'est ce qu'on peut dire.
Ouais, mais ils ont quand même... ils sont arrivés ils nous ont coincés, ils sont arrivés par l'autre côté sur scène.
Mythique voix de Bernard Lenoir qui diffusait sur France Inter en 2001 un concert de New Order. Je crois qu'il est en discussion avec JD Beauvalet des Inrecuptibles. Alors je disais juste avant de commencer l'émission, de toute façon il va falloir m'aider parce que moi je n'ai pas cette culture musicale. Il s'est trouvé hier, préparant l'interview, que j'ai sorti dans le salon que j'occupe avec d'autres gens des grands vinyles, notamment un vinyle blanc 1987 de New Order, pour peut-être me familiariser avec des choses qui vous ont nourri. Est-ce que derrière le poste, vous pouviez être là en 2001 à écouter ce concert-là, Marie Limignana?
En 2001, j'aurais pu.
C'était
oui.
Il y a 17 ans. Je me suis dit ça ce matin. Je me suis dit 17 ans. Vous auriez pu être derrière le poste.
Oui, j'aurais pu. J'aurais très bien pu. Mais je pense que je n'y étais pas.
Mais vous étiez plutôt quoi, potentiellement dans la salle?
Non plus, malheureusement. J'aurais bien aimé aussi être dans la salle. Non, je ne sais pas. On devait être.
Mais en fait, c'est pas la période de New Order qu'on apprécie le plus. New Order, c'est un groupe qui existe depuis très longtemps, donc qui a eu plusieurs vies. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a été amputé de Peter Hook qui s'est barré. Et du coup, je trouve que c'est plus New Order. Mais en tout cas, la période qui nous intéresse, c'est plus celle qui arrive juste après la fin de Joy Division, donc vraiment les deux ou trois premiers albums. Et particulièrement le jeu de basse de Peter Hook, qui pour nous est un héros comme peut l'être Keith Richards ou Brian Jones ou Iggy Pop. Quoi. C'est vraiment un des grands, de nos grands héros dans la musique populaire.
Et c'est quoi un héros pour des musiciens?
Oh, c'est quelqu'un qu'on admire pour des tas de raisons. Mais lui, par exemple, c'est un... Alors, ça, je l'ai découvert sur le tard en lisant ses bouquins. Pour nous, c'était un... Enfin, gamin, c'était un mystère en fouillant dans les disques de mon frère quand je sortais les vinyles de Joy Division. J'y comprenais rien parce qu'il y avait pas de notes de pochette. Il y avait tout juste le nom du groupe. Des fois, il n'y était pas. Il n'y avait pas les titres non plus. Et c'était une esthétique vraiment très particulière. Alors que moi, j'étais fondu de disques des années 60 et ou alors de groupes comme les Biffy Tittoos, qui étaient plutôt des groupes pleins de couleurs. Et là, les disques de Joy, c'était vraiment très spécial. Et moi, j'ai commencé à écouter ça à l'aveugle parce que mon frère me faisait écouter, etc. Puis quand New Order est arrivé, mon frère Serge continuait d'écouter, de les suivre. Donc j'ai suivi aussi, mais c'est en...
Peut-être qu'on peut faire le lien entre Joy Division et New Order, pour les gens qui l'ignorent.
Ah pardon, alors oui, alors Joy Division, c'est le groupe qui a... C'est un groupe mythique, pour des tas de raisons. L'une d'entre elles, c'est que leur chanteur s'est malheureusement suicidé la veille de leur première tournée américaine. Et est devenu culte, comme peut l'être Jim Morrison ou des gens comme ça, quoi. Et c'était quelqu'un... qui était, enfin c'est difficile de parler de lui comme ça, mais qui est devenu culte pour plusieurs raisons. D'abord pour sa façon d'écrire et d'aborder le texte dans la chanson, et aussi pour ses prestations et sa façon de se tenir sur scène, et le type de performance qu'il pouvait fournir avec Joy Division, quoi, qui était un groupe vraiment très très à part, quoi.
Et après sa mort, du coup,
il est devenu, c'est devenu culte, comme on dit aujourd'hui. New Order, ce qui est, je pense, un cas unique dans l'histoire de la pop. C'est-à-dire que il y a des exemples. Par exemple, quand Morrison est mort, les Doors ont essayé de continuer à faire des disques qui sont tous plus catastrophiques les uns que les autres. Et c'est pas du tout le cas pour New Order. Ils ont réussi à, ils ont continué à expérimenter et en passant, après avoir inventé la Cold Wave, ils ont inventé la musique électronique moderne et une nouvelle forme de pop et de production, etc. Donc c'est vraiment des gens incroyables, quoi.
Si je pose la question de New Order, c'est parce que j'ai lu que dans le mouvement d'une musique qu'on appelle le garage rock, il y avait beaucoup de codes, et qu'à un moment donné où vous avez voulu reprendre de la musique comme celle de New Order, c'était pas hyper facile. Du coup, je me suis demandé, pour les non-spécialistes, et la non-spécialiste que je suis, quels sont les codes de cette musique garage qui vous empêchaient d'aller sur ce terrain-là, par exemple?
Parce que c'est un type de musique comme plein d'autres types de musique qui sont blindés de dogmes, et en fait il y a toujours des gardiens du temple. Et moi, quand j'étais môme, il y avait des gens qui m'expliquaient qu'il fallait pas écouter les Who après 67-68 parce que c'était plus les Who. Et voilà, dans le garage, c'est blindé de... C'est vraiment la musique qu'on aime le plus et qu'on a écouté toute notre vie, surtout le garage des années 60. Donc, vous voyez ce que c'est que le rock garage.
Allez,
on
y va, on partage. Ouais,
pour aller vite, il s'agirait de la musique enregistrée par des petits groupes américains avec les moyens du bord dans les années 60. Donc c'est un peu ça l'essence du son. Et soit ils enregistraient eux-mêmes, soit ils allaient enregistrer dans des petits studios de fortune. Et en gros, tous les défauts liés à la prise de son et au manque de dextérité de ces groupes, etc., a créé ce son qu'on a appelé le garage rock. En gros, le rock enregistré dans les garages, et qui a été une espèce de manne et de base pour des groupes plus tard comme les Cramps, etc., qui sont inspirés de ces groupes-là, etc. Et dans les années 80, il y a des gens comme Tim Warren de Crypt Records qui ont sillonné les États-Unis en camionnette pour acheter des 45 tours dans tous les États des États-Unis, dans des espèces de vide-greniers, des brocantes chez les disquaires, en achetant les disques au kilo, etc. Et avec leur trouvaille, il a créé une série de compilations qui s'appelait Les Back from the Grave, qui continue de, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, il en sort moins, mais il en sort, et qui recensait en fait ses trouvailles préférées.
Et c'est comme ça que ça vous est arrivé aux
oreilles. Et alors nous, on est tombé dans un magasin de disques à Perpignan qui s'appelait Lolita. On est tombé sur le Back from the Grave numéro 2, à une époque où moi j'écoutais plutôt des classiques 60s et du punk américain, mais des choses comme les Ramones ou les Cramps, etc. Des choses assez classiques. Et ce jour-là, je me suis aperçu que le punk, ça pouvait être aussi une musique des années 60. Et on a découvert d'autres compilations, les Pebbles, les Nuggets, et depuis, ça a jamais cessé de nous passionner. Et c'est un puissant fond parce que, en gros, ces pépites américaines, elles existaient aussi en Europe. Donc, on a commencé à découvrir des groupes allemands, des groupes belges, anglais, etc., et français.
Ça entrait dans votre musique au fur et à mesure, ou ça entrait dans votre passion d'en écouter, ou autant que d'en faire?
Oui, c'est ça. Et c'est aussi une, comme le, je pense que comme le, quand les Ramones sont arrivés à Londres et ont joué devant ce qu'allait devenir les Sex Pistols, les Clash, tous ces gens-là ont été décomplexés en voyant des groupes faire une musique formidable avec trois accords. Et pour nous, le garage punk des années 60, ça a été un peu je crois, la même réaction, c'est-à-dire qu'on rapidement avec les, on savait déjà jouer moi et moi avec Dutron, et en fait, on s'est aperçu qu'avec les mêmes accords, on pouvait jouer la moitié d'une phase de Back from the Grave.
Et pourtant, c'est une musique qui vous est apparue à certains moments à avoir en effet des limites ou des dogmes ou une manière de limiter son territoire qui correspondait peut-être pas à la liberté que vous aviez envie d'exercer vous. Alors, dans
nous,
la musique.
Les dogmes, on les a respectés de manière pure et dure pendant très très longtemps. Sauf qu'à un moment donné, c'est un peu comme moi, je voyais rien de honteux dans le fait d'aimer à la fois Miles Davis, Pharoah Sanders, Joy Division et New Order et les pires trucs infernaux des années 60. Quoi. Je vois pas pourquoi ça.
Comme quoi, par exemple?
Comme exemple de groupe des années 60.
Les pires trucs des années 60.
Oh ben les pires trucs des années 60, il y en a plein. Il y a un groupe comme les Novas qui ont fait un titre qui s'appelle The Crusher, qui est vraiment une chanson ultra trash pour l'époque à laquelle elle est sortie, quoi. C'est un titre de 64, je crois, ce qui était vraiment le punk avant le punk. Et des tas de trucs. Et puis il y a aussi tout l'univers de John Waters qui a repris cette idée de trash là comme ça. Voilà. Donc nous on a toujours aimé ça, mais en même temps on aimait moi j'adore les B52, j'aime bien certains trucs de vieux reggae, enfin voilà quoi, on écoute des tas de choses, on a une collection de disques qui est assez vaste et éclectique. On aime aussi la musique orientale, enfin on aime des tas de trucs. Et au bout d'un moment, enfin quand on a fait les Luminanas, en fait, le fait d'être seulement deux dans la conception des disques, ça nous a permis d'aller exactement où on voulait. Sans modèle démocratique. C'est-à-dire nous, jusqu'à présent, on a toujours travaillé avec des groupes. L'un avec l'autre ou l'un sans l'autre, mais on a toujours été dans des groupes et dans lesquels on respectait évidemment ce principe où il fallait qu'on soit tous d'accord pour aller vers une direction ou une autre. Et le résultat, c'était en général des frustrations. Et en fait, quand on a commencé à travailler tous les deux sur les disques, on s'est plus jamais posé de questions. Donc l'idée d'inviter sur un album à la fois Peter Hook et Antonio Combe et Emmanuel Seignier et Bertrand Belin, par exemple, aurait été impensable il y a quelques années pour nous, dans le milieu dans lequel on évoluait.
Et alors, en dehors des frustrations, ça a fondé quoi? Parce que justement, il y a eu beaucoup de groupes et beaucoup d'expériences musicales avant de Les Mignonas. Vous dites, on faisait des choses si démocratiquement qu'on faisait peut-être pas exactement la musique qu'on avait dans le cœur. Mais qu'est-ce que vous avez fait qui vous a quand même construit fortement?
Si, il y a eu des périodes où on était tellement. Mais je crois que c'est un truc de jeunesse aussi. Les groupes qu'on a eus pendant le lycée, juste après le lycée, je pense qu'on était vraiment complètement. On formait vraiment une espèce de boule avec dans le groupe et on était tous à fond dans la même direction. Mais après, en évoluant et en voyant des gens sur scène, on a commencé tous d'ailleurs. Là, je parle plutôt d'un groupe qu'on avait qui s'appelait les Beach Beaches où certains d'entre nous sont partis vers du punk hardcore, des choses complètement noise. Et moi, encore plus vers les années 60 et les années 60 françaises décalées, et l'envie aussi de faire des chansons en français, que partageaient pas du tout mes copains de l'époque. Ils sont toujours mes copains, on n'est pas fâchés, mais c'est juste qu'on n'avait pas envie de jouer ça ensemble. Mais par contre, avec eux, on a appris ce qu'était une répétition, à changer des cordes de guitare, à monter des tournées catastrophiques, mais on les montait quand même comme on pouvait, à apprécier la vie de tournée, enfin tous ces trucs-là, quoi. Ça a été fondateur, cette période lycée, post-lycée, de tout ça. Je pense qu'on a appris, sans cette période-là, on aurait pas du tout fait les Limignanaises, en fait. Je crois qu'avec les Limignanaises, on a digéré toutes ces périodes-là, et on est allé juste artistiquement, en gros, exactement vers... dans la direction qu'on voulait.
Et j'ai l'impression, pour avoir écouté ce disque-là et les autres, qu'il y a quelque chose de la joie très simple et très profonde de faire de la musique, telle que vous l'avez que vous venez de la décrire là, comme une sorte de boule, mais de boule très lumineuse, qui est absolument présente. Qui est vraiment, pour le coup, auquel il me semble que vous n'avez pas touché.
Alors, ce qui est certain, c'est que, en ce qui concerne la production des disques, c'est un pur pied, dans le sens où vraiment, on se pose jamais de questions. On a installé une espèce de studio qui est plus un atelier qu'un studio dans la maison, ce qui nous permet de travailler tout le temps et d'expérimenter des tas de choses et d'inviter des tas de gens et de finalement jamais s'ennuyer. Et on a rencontré la rencontre avec Pascal Comlade à une époque de notre vie, par exemple, a été décisive sur des tas de choses, sur la façon d'appréhender la production, l'enregistrement, le business aussi.
Mais décisif par quoi?
Parce que ça nous a ouvert les yeux sur d'autres possibilités de production, en fait, et sur l'idée de pouvoir imaginer le disque qu'on voulait exactement comme on le voulait.
À d'autres échelles, par exemple?
Pascal, un jour, il m'a invité à intervenir sur un album qu'il était en train d'enregistrer, et je suis allé avec ma guitare chez lui, pensant retrouver d'autres musiciens et enregistrer en studio, quoi. Et en gros, pas du tout. Il était avec Raph Dumas, qui est un ami et ingénieur du son, et il avait déjà travaillé sur des bases, et en fait, je suis juste intervenu sur des moments précis. Et quand j'ai reçu le disque quelques mois plus tard, je me suis aperçu qu'il avait imaginé l'album et construit l'album avec des invités et son travail à lui, en emmenant le disque vers la direction qu'il souhaitait. Et pour moi, c'était complètement... c'était une révolution. Parce que jusqu'à ce moment-là, on travaillait d'une manière assez classique, c'est-à-dire en réunissant des musiciens pendant des mois de répétition. Et à un moment donné, sur un rendez-vous en studio, sur deux ou trois jours, on essayait de faire le nombre de prises nécessaires à la création d'un album, avec donc toutes ces... avec ce process démocratique, c'est-à-dire en laissant la liberté à chacun d'intervenir sur la production, etc. Et là, c'était pas du tout le cas, et surtout à la fin, on s'est retrouvé avec un album que je trouvais vraiment formidable, et en rentrant à la maison, je me suis dit voilà, ça, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait à partir de maintenant appréhender la production et la musique en général. Et depuis, on n'a jamais cessé de sortir des 45 tours, des albums et de tourner, quoi.
Ça veut dire que c'est encore plus, ça s'épouse encore plus avec la vie, avec le temps de la vie, de faire tout le temps de la musique, d'écrire tout le temps de la musique, d'en enregistrer finalement un peu tout le temps aussi.
C'est très important pour nous. Moi, ça m'aide à me lever le matin, c'est certain. Et je crois aussi que c'est une façon de travailler qui est adaptée à notre âge. Parce que je crois que j'aurais plus du tout l'énergie de faire des concessions aujourd'hui.
Des concessions dans la manière de travailler ou des concessions tout court dans la manière de composer et même de chanter?
Ouais.
Parce que vous en avez beaucoup fait?
Bien sûr, on a tous fait, je crois. Dans notre vie, on fait toujours des tas de concessions. Et là, on n'a jamais rien prémédité, mais ce qui est certain, c'est qu'on a pensé un modèle qui nous permette de nous épanouir en faisant ce qu'on fait.
Et c'est le cas.
Ouais.
Et ça s'entend très fort.
Cool, tant mieux. Ouais.
Ça s'entend, c'est pour ça que je me permettais de parler de la lumière. Il se trouve que les trois dernières émissions, on a beaucoup parlé des éclats, des rivières, des jeux d'enfants, de beaucoup de lumière. Et moi, j'ai entendu beaucoup de lumière scintiller, y compris avec de l'ombre. Quelle est l'ombre, d'ailleurs, dont vous parlez dans ce titre-là, Shadow People?
C'est une espèce de mythe américain. Alors, il y a des films fantastiques qui sont pas forcément très bons, d'ailleurs, qui parlent des Shadow People. C'est cette espèce de présence... qu'on sent au-dessus de notre épaule et qui disparaît dès qu'on essaie de l'observer, et voilà. Alors, dans ce mythe-là, on parle de de mondes parallèles, pas forcément de fantômes. Moi, j'adore les histoires de fantômes, mais là, c'est pas le cas. Et c'était une espèce de, c'est juste une métaphore rapide sur l'idée que les gens qu'on a rencontrés, c'est un disque qui parle de l'arrivée d'un môme dans un lycée des années 80 et de la manière dont il va trouver sa place dans les bandes de l'époque, qui était quand nous on y était, en tout cas les skins, les punks, les mods, les rude boys, les hard rockers de l'époque.
C'était très dogmatique finalement, oui, ces bandes-là.
Et nous, on a vraiment évolué là-dedans à cette époque-là, et on a grandi avec eux, et on a écouté de la musique, vu des films avec eux, j'ai l'impression que ces gens, alors pour une bonne partie d'entre eux, ils nous accompagnent toujours, parce qu'on est toujours assez, on s'est jamais éloigné de Perpignan très longtemps, donc nos amis d'aujourd'hui sont encore ceux de l'époque. Mais j'ai toujours l'impression que même si on respecte pas forcément les dogmes qui étaient les nôtres dans les années 80-90, ces gens-là sont toujours comme une espèce de présence au-dessus de notre tête.
Joyeuse. Une ombre,
ouais,
mais
bien
joyeuse.
Sûr, ouais. Et qui nous empêche de partir en vrille, je crois, souvent, quel que soit le sujet.
Et alors, ce serait quoi, partir en vrille, par exemple?
Ça aurait été faire des concessions, par exemple.
Faire une musique qu'on attendait de vous à un moment donné, ou c'était facile de le faire?
Très sincèrement, je pense qu'on est tellement techniquement mauvais, et que je pense que même si on essayait de faire un très beau morceau de R&B qui passerait à la radio, on en serait incapable. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est pas
à l'ordre du jour.
Ouais.
Vous avez parlé de Pascal Comelade. Eh ben, on l'écoute.
Un gros 80% des endroits où je joue en France, ce sont des lieux très culturels, entre guillemets. Je n'y voyais pas de notion péjorative de ma part. Mais c'est très culturel. C'est-à-dire, je joue devant un certain public qui, il faut bien le dire aussi, bon, il y a une large, très très large part de snobisme qui est inhérent à tout ce milieu des musiques dites nouvelles, etc., etc., en Europe depuis 20 voire 30 ans. Le meilleur exemple pour moi, c'est par exemple dans des endroits comme ça, on joue une musique qui est qui est entendue comme bon, les gens font ce qu'ils veulent avec, mais on peut se mettre à jouer une grosse saleté et ça plaira à tout le monde. Un des problèmes de la musique, de la pratique musicale, etc., etc., c'est ce strict discours d'esthète et de ne pas reconnaître que... Par exemple, le dernier numéro des In Rock sur la France. Tu vois la majorité des musiciens et des chanteurs français prendre un malin plaisir à dire du mal ou de Johnny ou à dire en sous-main que c'est de la merde.
Johnny Hallyday.
Alors que je suis certain que la majorité de ces gens-là adorent écouter Johnny.
C'est une archive donc de Pascal Comelade qui date de 1999 et qui vous fait plutôt pas mal marrer, de Liminianas. Est-ce que ce discours d'esthète, vous voyez de quoi il parle?
Oui, bien sûr. Oui, ouais. Je vois ce qu'il dérange là-dedans. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis pas du tout pour dire du mal de Johnny.
Mais ça veut dire que c'est une place qui est difficile à tenir, justement, ne pas dire du mal de Johnny, ne pas non plus dire trop de mal de plein de gens dans le paysage musical dans lequel on s'inscrit. Dire du mal au sens, peut-être pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, des dogmes, des chapelles. On sent que dans sa parole à Comelade, ça enlève juste la liberté de faire la musique qu'on a envie de faire.
Bien sûr, ouais.
Et d'oser dire qu'on en jouit, en fait, et que c'est cool, et c'est
bien
super.
Sûr. Mais moi, ça... Je me suis libéré de ça il y a un bon moment déjà. Ça, j'ai aucun problème à dire que j'aime Dilui de Mike Brandt, par exemple. Qu'on passe avec Pascal, je balance. On fait des sets de DJ, c'est pour ça qu'on a amené des mallettes de 45 tours ce soir. On fait des sets DJ régulièrement et on prend un malin plaisir justement avec Pascal. Je le fais avec Marie, avec Pascal. On prend un malin plaisir à justement envoyer des espèces de scuds comme ça à certains moments du set. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est souvent des productions formidables et des enregistrements vraiment, vraiment intéressants et émouvants, quoi.
Et qu'est-ce que ça dit alors? Parce que, à la fois, ça dit deux choses. Ça dit à la fois une sorte d'érudition musicale, quand même, par exemple, dont j'avouais en début d'émission que je ne l'ai pas. Ça dit une érudition musicale, donc quelque chose de beau aussi, des cultures constituées, des ouvertures d'esprit, des curiosités. Vous parliez de cet homme qui part en camion récupérer toutes les merveilles du monde aux États-Unis et qui ramène des 45 tours. C'est très beau. Mais ça dit aussi peut-être une manière de cette érudition, pas nécessairement être capable de toujours la partager.
Oui, mais Je crois que c'est des gens qui avaient envie de vivre des aventures, en fait. Que ce soit le couple des Cramps, par exemple, ou c'est juste des gens qui avaient pas envie d'avoir une vie différente. Et qui se sont longtemps protégés des abominables malfaisants de l'époque, des majors, etc. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué de séparer en deux camps les majors et les indés, par exemple, et d'avoir un discours de ce type. Quoi. Je crois que tout ça a muté vers autre chose. Et puis les mômes se sont occupés tout seuls de partager les informations via le net, en fait. En fait, depuis Internet, des tas de choses ont changé. Et d'ailleurs, nous, on en est la preuve. On serait pas là s'il y avait pas eu MySpace à une certaine époque de notre vie. Parce que justement, on a connu l'avant, ça. Et on a même connu l'époque où on en parlait hier soir, où on envoyait des cassettes démos par la poste en espérant que quelqu'un allait les écouter dans les stations de radio, dans les clubs, etc. C'était très compliqué d'arriver à trouver sa place. Et quand on appelait en disant qu'on était dans un groupe de garage, ils nous répondaient qu'ils réparaient pas les voitures, ce qui était la blague qu'on nous a fait très souvent. Et moi, je suis pas du tout nostalgique de ça. Moi, je suis ravi que Scorsese prenne un titre de Brian Johnston Massacre pour un générique de série, qui est un titre formidable. Moi, je suis pas du tout fan de Gossip Girl, mais grâce à Gossip Girl, on a eu des tas et des tas de gens qui ont acheté nos disques et qui sont venus au concert, voilà.
Que ça circule, en fait.
Bien entendu. Et je pense que la musique est réellement faite pour être écoutée par le plus grand nombre. Et quand on parlait tout à l'heure du problème des gardiens du temple et des chapelles, ce sont des principes qui, moi, m'intéressent plus du tout aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là.
Et peut-être parce qu'il y a un moment donné où la question de ce qu'on a appelé la contre-culture ou la subculture pour les sociétés anglophones avait un sens, comme vous le disiez, de contrebalancer ce qui se construisait par ailleurs et qui était qui était extrêmement dangereux et qui menaçait des créations plus fragiles. Donc peut-être que ça avait un sens à ce moment-là.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui ça en a un?
Ben oui et non, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut de toute façon exister sans aucune aide. On peut si l'ambition d'un groupe comme ça l'était pour nous par le passé, même aujourd'hui, en gros, moi, ce qui me motive quand on rentre en studio, c'est vraiment juste d'arriver à produire la musique qui m'excite le plus et surtout de l'avoir arrivé par la poste en vinyle, vraiment. Très sincèrement, notre motivation première, elle est là. Et après, c'est celle de prendre du plaisir en concert. Donc nous, aujourd'hui, on a une exposition qui est grave parce qu'on a un super label et un très bon booker qui est plus importante. Mais un groupe aujourd'hui au fin fond de la Catalogne qui produit ses disques et qui
les met en ligne
et qui les met en ligne et qui tourne dans son circuit. Peut s'épanouir là-dedans et sans l'aide d'une major ou sans l'aide d'un booker, ça dépend en gros de ce vers quoi on veut aller. Mais moi, je pense que ces réseaux, les réseaux indés, ils existent toujours et ils sont plus forts que jamais. Et je crois aussi que dans les grandes maisons de disques et dans les grands médias, il y a de plus en plus de gens intéressants et avec lesquels on peut travailler sans faire la moindre concession.
Vous disiez que vous êtes venu avec des valises de disques et puis ouais. vous parliez justement, j'en reviens, parce que c'est une image belle, je trouve, de ces personnes qui vont chercher de la musique là où elle se fait, là où elle se joue pour la ramener. Vous, c'est quelque chose de très important, ce support-là, sous cette forme-là, dans cette manière aussi d'avoir connaissance, collection, voire fréquentation de la musique, le vinyle.
Alors le vinyle, on a essayé, moi j'ai essayé d'acheter des CD à une époque et en fait ça me tombait des mains. Parce que je crois qu'on a grandi avec le vinyle et que c'est foutu pour nous. Mais il y a des tas de choses qui font qu'on préfère ce format-là plus que tout autre format. Et qui sont les trucs classiques, en gros, de la pochette, de l'effort qu'on peut faire en pensant une pochette. Et aussi beaucoup, et là on rejoint l'idée de... Enfin, ce dont on parlait tout à l'heure sur l'avant Internet, c'est que quand j'étais gosse et que mon frère m'offrait Funhouse des Stooges, par exemple, je pouvais passer un an à relire 2000, pour la 2000e fois les notes de pochette et savoir qui était le producteur, où est-ce que ça avait été enregistré, de quelle édition il s'agissait, etc. Et puis quand mon ami Franck ramenait sa copie à la maison, on s'apercevait que le carton n'était pas le même. Et voilà, on passait des heures et des heures à déguster en fait les vinyles.
Ça appuie sur la singularité en fait, si je vous entends. Ça appuie sur quelque chose qui dit ce sont des personnes particulières qui font cette musique.
Oui, puis c'était vraiment romantique et intriguant, quoi. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait des backforms de grève, il y avait des notes de pochette sur les backforms de grève et des photos en noir et blanc assez, la plupart du temps, de mauvaise qualité, où on devinait à peine les visages des mecs et tout. On a aussi appris à lire l'anglais en essayant de déchiffrer ces notes de pochette-là. Et c'était vraiment incroyable de découvrir des histoires sur des groupes comme les Haunted, des groupes canadiens, ou d'essayer de déchiffrer les textes. C'est un peu ce que je regrette par contre avec la dématérialisation aujourd'hui et la mise à disposition totale de l'information. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même si on trouve ça vraiment formidable
que ça circule,
je regrette un peu l'époque où on passait du temps en fait sur chaque disque.
Sauf qu'on peut acheter des vinyles par internet.
Bien sûr.
Et les commander.
Bien sûr.
Un jour d'hiver, berlinois, vous poussez la porte d'un studio et vous êtes accueilli par Anton Newcombe. Vous pensez que vous allez aller dormir un petit peu pour reprendre vos forces,
vous reposer.
Et en fait, il vous propose de travailler tout de suite. On l'écoute.
When you watch Paul McCartney play bass,
quand tu vois Paul McCartney jouer de la basse et les autres mecs des Beatles, tout ce qu'ils font te montre que tu ne peux pas être Paul McCartney. Ils sont phénoménaux. Jimi Hendrix ou n'importe quel genre de mec, n'importe quel mec de ce genre, ils sont inimitables. Mais quand j'ai vu des mecs du post-punk, qui est vraiment un mouvement populaire, comme le hip-hop, je me suis dit, ces idiots, je peux faire pareil. Ils m'ont inspiré.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Across the fears.
On en parle depuis tout à l'heure de votre musique, mais la voilà, c'est un extrait de votre disque de Liminianas. On entend un morceau qui s'appelle Istanbul is Sleepy, et juste avant, dans la voix de Romain de Bec de Lièvre, la voix de Anton Newcomb qui parle de sa découverte du mouvement post-punk en disant « Ces idiots, je vais enfin pouvoir faire comme eux » et ils m'ont inspiré. Est-ce que d'une part ça ressemble au bonhomme avec qui vous avez enregistré à Berlin, et d'autre part est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Alors c'est tout à fait lui, et oui, et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure en parlant des Back From The Grave ou des Ramones pour les Sex Pistols et les Clash. C'est toujours c'est une histoire qui se répète. Et effectivement, c'est l'idée de se décomplexer et d'y aller quoi. Et du do it yourself qui est la base du travail d'Anton Newcomb, qui est quelqu'un qui a monté son label, son studio, qui gère tout seul, etc. et qui a choisi ce chemin-là. Et c'est vraiment un personnage très intéressant, très particulier, et extrêmement généreux et altruiste. Et depuis qu'on l'a rencontré, en gros, il a fait que nous aider absolument tout le temps sur des tas de plans. Il a commencé par partager la scène avec nous en nous invitant à jouer au Trianon avec lui et en amputant son concert, parce que Anton Newcomb avec le Brian Johnston Massacre, c'est des concerts de 2h, 3h quoi. Et là il nous a laissé faire sa première partie en nous prêtant tout son matériel pour qu'on ait pas de frais, en nous imposant la production du concert, en nous présentant ceux qui sont devenus aujourd'hui nos tourneurs. Et donc en nous aidant à produire cet album quoi. Donc c'est difficile de faire mieux. Et je crois que c'est le contraire de l'image qu'on s'en fait suite au film Dig. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. Bah c'est Anton est devenu mondialement connu grâce à un film ou à cause d'un film qui s'appelle Dig qui raconte la naissance et l'explosion dans deux sens différents de deux groupes en fait, un qui s'appelle Dandy Warhol et donc de Brian Johnston Massacre et le groupe d'Anton. Et à la fin du film, les Dandy Warhol deviennent très célèbres et font les plus beaux festivals du monde, jouent à Reading, etc., en Angleterre. Et Anton finit tout seul dans un bar assez glauque aux États-Unis. Sauf qu'avec le temps, les Dandy Warhol ont fait des concessions et j'ai l'impression que de moins en moins de gens s'intéressent à eux. Et Anton, lui, par contre, a filé droit et est respecté de tous. Donc il y a une morale aussi à ce truc-là.
Au compte. Ça ressemblait à quoi cet hiver berlinois de rentrer, de se faire accueillir par quelqu'un qui n'a pas envie d'attendre une seule seconde avant de faire de la musique et de travailler avec vous ?
C'était très curieux parce que, bon, nous, sans caricature, on vit plutôt au soleil. Et c'était... donc chez nous, il fait un peu beau même aux alentours de Noël. Donc là, c'était 10 jours avant Noël. Et on est arrivé à Berlin... le soir, et on a été accueilli par Andrea Wright qui est aussi un personnage important dans l'univers d'Anton, qui est la personne qui fait
qui n'a vraiment pas peur des chapelles non plus.
Non, pas du tout. Ouais. C'est une Anglaise géniale qui fait le son d'Eddie de Brian Johnston depuis quelque temps, qui vient de Liverpool et qu'Anton adore et elle adore Anton et elle s'occupe de lui et enfin vraiment tous les deux là ils sont vraiment déments.
Donc celle qui vous ouvre la porte.
Et celle qui nous ouvre la porte, donc c'est quelqu'un qui a produit à la fois les 10 de Black Sabbath en Angleterre et de Pale Fontaines et c'est une grande copine d'Ico and the Bunnymen, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une ouverture d'esprit et les capacités d'enregistrer des tas de sons
oreille,
et de groupes différents.
Ouais.
Et donc nous on pensait boire un coup et aller au lit et en fait pas du tout. Il était genre déjà minuit, il faisait un froid polaire et Anton nous a montré le studio et on a attaqué direct. Et on a bien fait parce que on était allé se coucher encore plus heureux qu'on ne l'aurait cru parce qu'on avait déjà enregistré, enfin monté la moitié des titres et bien avancé le boulot parce que c'est un album en fait qu'on a aux trois quarts disons enregistré chez nous dans notre garage. On a monté les bandes à Berlin et on a travaillé réellement quatre bonnes grosses journées de 10h à 2h du matin. Avec Anton et Andrea, et après il y a eu quelques jours de mixage, mais c'est allé très très vite le travail berlinois avec eux.
Et ça ressemble à quoi ces grosses journées de travail? Je crois que vous avez commencé par reprendre les batteries qui étaient d'abord enregistrées chez vous et que vous avez vraiment replacées là.
C'est
ça,
en fait.
Sont fondamentales. Elles ouvrent au nombre des morceaux et avec une énergie vraiment puissante.
André a une façon de d'enregistrer la batterie particulière et je trouve que moi on sent l'air dans la pièce quoi. Ah ouais. Ça c'est vraiment rare. Et c'est un truc que les Anglais savent vraiment bien faire ça. Donc je donne le plan à nos amis batteurs qui écoutent. Elle a une technique, c'est qu'elle met deux baguettes de batterie l'une sur l'autre, en partant de la caisse claire par exemple, et c'est ce qui donne le point exact où il faut placer le micro pour les prises de son. C'est important parce que nous on a galéré pendant des années pour choper ce truc là. Elle a fait la même chose à chaque fois qu'elle passe un micro au-dessus de la batterie, et on s'est aperçu
ça donne de l'espace,
que
en fait.
Ça donne de l'espace et ça l'a respiré la prise. Ça, c'est des détails, mais bref, on a commencé par refaire
mais
toutes les batteries.
Mais ça fait un son. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça bâtit un son qui est évidemment extrêmement important dans ce disque-là, mais qui est aussi une continuité de votre travail, de travailler un son qui fait votre singularité. On en parlait tout à l'heure de la singularité du son, de ceux qui font des individus qui font la musique. Bon, voilà, c'est une forme de signature aussi.
Carrément, bien sûr, c'est ce qu'on est allé chercher là-bas. Parce que nous, jusqu'à présent, on était plutôt... Bon, on va sûrement y revenir d'ailleurs, mais... dans un espèce de plan de bricolage en fait en ce qui concerne l'enregistrement. C'est vraiment un truc qu'on maîtrise pas du tout. Nous on s'est improvisé
ingénieur
du son, ce qu'on n'est pas du tout. On arrive juste à bricoler avec quelques micros et une paire de préamplis et un logiciel, mais on n'est pas du tout de vrais producteurs ou de vrais ingénieurs. Et ce qui était intéressant en allant chez Anton, c'était, mais on le savait pas parce qu'on connaissait pas Andrea, mais on s'en est aperçu tout de suite. C'était à la fois la rencontre artistique avec tout ce que pouvait apporter Anton à la production du disque et aussi techniquement ce qu'allait amener Andrea. Surtout que, et en fait ça collait parfaitement parce que c'était pas bien éloigné de ce qu'on aime dans le sens où elle au quotidien, dans le sens où elle fait des prises très rapides. On garde la plupart du temps la première ou la seconde prise, mais vraiment si c'est nécessaire, s'il y a un gros planton ou quoi, mais sinon on gardait toujours les premières prises et on pouvait faire 15 prises de guitare en 2 heures avec Anton et la plupart du temps on gardait les premières. Ça allait très vite, donc on n'était pas du tout déstabilisé par cette façon de travailler. Mais ce qui était intéressant, c'était la valeur ajoutée, leur valeur ajoutée.
Et quand je dis à quoi ça ressemblait ces longues journées de travail, est-ce que par exemple, c'est des moments où vous vous parlez de ce que vous voulez, vous vous parlez d'un son, vous vous parlez de ce qui vous anime?
On ne s'est jamais parlé de quoi que ce soit qui concernait la production de disques. En fait, on alternait des périodes dans la journée où Anton... Parce qu'il avait mixé la veille, dormait dans la pièce commune et nous pendant ce temps-là on faisait autre chose quoi, on calait les batteries, Marie refaisait ses batteries ou on faisait déjà un prémix du disque avec la matière que moi j'avais amenée.
Ou alors il te montre avec les yeux qui brillent ses nouveaux instruments.
Oui oui. Alors Anton a tout un tas vraiment. Une super.
Bah vous aussi quand même parce qu'on voit la liste des instruments.
Non, on leur arrive pas
le disque. Ah bon, d'accord.
Parce que là, c'est du matériel qu'ils ont ramené des États-Unis et c'est une espèce de. Moi, je suis pas du tout accro au matos vintage ni rien, mais quand même, il y a une espèce de panoplie d'ampli Fender d'époque avec des gamelles qui va chercher je ne sais où parce qu'ils trouvent qu'en gros les gamelles d'ampli d'aujourd'hui valent rien. Donc voilà, tout ça est bien. Est bien pensé et il a un son de guitare incroyable. Il a ramené une bonne dizaine de guitares Vox de demi-caisse qui sont des super guitares des années 60. Il a plein de folk. Il a un mélotron. Et tout marche, tout allumé en permanence et on peut utiliser tout le matériel qui se trouve là. Ce qu'il a pas arrêté de faire d'ailleurs quand on a enregistré Shadow People. Et les journées, ça ressemblait à ça. Donc voilà, on attaquait. Si Anton était dispo, on bossait avec Anton. Si Anton n'était pas là, on continuait. Il rentrait dans la pièce avec un thé parce qu'il avait entendu un truc à travers la porte. Et il prenait une guitare, il enregistrait un riff, il se barrait. Des fois, on voyait plus de la journée parce qu'il allait, travailler sur autre chose ou alors il fait souvent des DJ sets à Berlin. Et puis il revenait, quelle que soit l'heure, on s'y remettait, voilà. Et ça s'est vraiment monté comme ça, le disque. À aucun moment, on n'a prémédité quoi que ce soit artistiquement, en se disant... Je leur ai juste expliqué au milieu ce qui était pour nous la thématique principale dont on parlait tout à l'heure, donc cette histoire de...
D'enfant, d'adolescence.
D'adolescence, voilà.
Et je crois qu'Antoine, ça l'a pas forcément fait vibrer. Et Andrea m'a dit oui, c'est la, en gros, elle m'a dit que c'était universel, quoi. Enfin, que c'était son histoire, elle aussi, et celle de toutes ses copines et tous ses copains.
Qu'est-ce que vous leur avez raconté?
Je leur ai parlé de ce que les Anglais appellent les subcultures, quoi, de ce qu'étaient nos amis de l'époque et de comment ça avait été dur. Pour moi, en tout cas, la vie avant de rencontrer ces bandes-là, en fait. Parce que si vous écoutez les Jam, les Kings et les Stooges et les Stones à 10-12 ans dans un petit village, vous êtes un peu seul en général. Surtout si vous essayez de vous habiller comme eux, ce qui était une grosse erreur de ma part.
Comment c'était arrivé à vos oreilles à 10-12 ans? C'est quand même pas banal.
C'est parce que j'ai nagé dans les disques de mes frères et sœurs, j'ai eu cette chance-là. C'était une maison. Mon frère Serge avait une belle collection de vinyles et très éclectique. Il avait des tas de. Lui, il suivait à fond tout ce qui était Joy Division et toute la New Wave qui arrivait derrière. Et dans la chambre d'à côté, il y avait mon frère Laurent qui lui était Mods. Et donc à l'époque du revival mode de la fin du début des années 80, fin 70. Et donc de tout petit, moi je suis né en 72. J'ai baigné là-dedans, donc lui, Laurent me faisait écouter les Jam, les Merton Parkas et les Easy Beat et ce genre de groupe-là. Et mon frère Serge, qui laissait sa porte ouverte, me laissait fouiller dans ses disques et me faisait écouter des tas de trucs, dont le premier Doors.
J'ai l'impression que c'est une histoire, comme dirait Andrea à Berlin dans le studio, c'est une histoire assez universelle, les portes ouvertes entre frères et sœurs, de la musique qui s'écoute.
C'est une vraie chance, hein. Ouais. Et c'était la même pour le cinéma, parce que c'était l'époque des vidéoclubs, et donc moi j'étais gamin, j'allais au lit plutôt qu'eux, mais quand je me levais le matin, le dimanche matin, très souvent, il y avait une VHS ou deux, qui, j'en suis certain, qu'ils laissaient exprès sur la table du salon, et j'ai vu des tas de trucs comme ça. J'ai découvert le cinéma de John Landis, et aussi Blow Up, c'est Antonioni, Blow Up, tous ces trucs-là, enfin, quand j'étais gosse, quoi, et Audiard et Nous nous fâchons pas et tous ces films là parce que, et aussi je me rappelle que ça c'était peut-être une erreur, mais il avait loué Eraserhead de David Lynch et j'ai vu ça tout gosse sans savoir du tout ce que c'était, et l'histoire des poulets, tout ça m'a traumatisé pendant très longtemps, mais ça m'a construit, je crois.
En 1972 vous naissez, et en 1972 Ennio Morricone répond à quelques questions.
Y a-t-il des instruments qu'il préfère?
Tutti.
Tutti. Non c'è uno o due
che... Ma no, la voce umana, prima di tutto, la voce umana come strumento, come suono, è uno, io lo prediligo molto, la voce
umana. Pas d'instrument particulier, les aime tous. Celui qu'il quand même préfère, c'est la voix humaine, parce qu'il lui trouve des possibilités, et puis évidemment des couleurs sonores, des tessitures qu'un
instrument. Più umano degli strumenti, perché viene da.
Et elle est plus humaine, évidemment, mais pas de spécialité de l'instrument, parce qu'il dit que tout dépend de l'utilisation qu'on fait de l'instrument. Chaque instrument a sa richesse.
Ennio Morricone est un compositeur très jeune. A-t-il été difficile pour lui d'arriver là où il en est, de devenir un nom?
È stato difficile per l'inizio e dopo di arrivare a questo stato adesso. Ça fait 20 ans qu'il écrit, mais en dehors du temps qu'il a passé au conservatoire. Et véritablement, depuis une dizaine d'années, il a accédé peu à peu à un certain stade de notoriété, de célébrité, mais comme il le disait, en utilisant un terme qui est communément, je crois, celui que beaucoup de gens utilisent, j'ai été le nègre pendant très longtemps de pas mal d'arrangeurs, de compositeurs, et maintenant, évidemment, bon, bah, c'est un peu l'autre côté de la pente.
Io mi diverto a scrivere la musica, per me non è mai una fatica scrivere.
Il écrit tout, aussi bien les arrangements que les compositions, qu'elles soient réussies ou pas. Et il se refuse à utiliser les services et les compétences d'autres personnes qui travailleraient, pour ainsi dire, donc, dans son ombre. D'abord parce que pour lui, c'est un plaisir que d'écrire la musique, dans tous les détails. Et en plus, il a une certaine satisfaction personnelle à pouvoir être reconnu d'une manière totale et verticale pour compositeur, arrangeur et chef d'orchestre, puisqu'il lui arrive de diriger les séances, de tout ce qu'il entreprend, de tout ce qu'il fait sans l'apport de quiconque.
Vous parliez, Lionel, juste avant l'archive de la chance d'avoir des portes ouvertes et des VHS laissées au matin pour découvrir et musique et cinéma. Et puis Ennio Morricone qui parle d'une certaine manière juste après vous. Parce qu'il me semble que dans ce disque-là, Shadow People, le cinéma est là, la musique de cinéma est là, les bandes originales de films sont là. De quelle manière ?
Alors c'est encore lié à l'enfance. C'est dans les quelques disques que mon père avait ramené d'Algérie ou qu'il avait acheté en tout cas à l'époque de leur sortie, il y avait la bande originale de Il était une fois dans l'Ouest et moi j'ai écouté ça du matin au soir et pendant très très longtemps gamin au milieu des disques du Petit Ménestrel et du Petit Chaperon Rouge, etc. Mais régulièrement, j'écoutais cet album-là avec, et là encore avec un... Je me posais des tas de... Parce que j'avais évidemment pas vu le film, mais je me posais des tas de questions par rapport à la pochette où on voyait un pendu. Et c'est un disque sur lequel j'ai rêvé longtemps en me fabriquant tout seul l'histoire... Par rapport au peu d'informations.
En l'écoutant aussi.
Oui, bien entendu, en l'écoutant tout le temps. Et je pense que si avec Marie on aime beaucoup le son de la guitare fuzz, c'est à cause des Stooges et des Cramps et de groupes comme ça, mais aussi beaucoup par l'utilisation qu'en a faite Ennio Morricone sur cet album-là et sur d'autres albums. Moi, je ne suis pas un expert de Morricone comme peuvent l'être des potes à moi, parce que en fait, il a une discographie et il a tellement travaillé. Il y a des années où il a fait DBO de films, mais par contre, je suis resté bloqué sur certains classiques et en particulier, Il était une fois dans l'Ouest. Alors pour la BO, mais aussi en ce qui concerne Sergio Leone, pour le film que moi je regarde régulièrement et que je trouve vraiment encore émouvant et enfin voilà, ça provoque encore des tas de trucs en moi quand je regarde ou quand j'écoute cette musique là.
Et c'est étonnant parce que tout à l'heure vous parliez de la manière dont Andrea a mis de l'espace pour enregistrer la batterie. Et je trouve que, évidemment, la musique de Morricone et par exemple ce qu'on entendait là, qui est l'ouverture de votre disque, donne beaucoup d'espace. Enfin, en tout cas, crée un espace mental très grand.
Ouais, ok. Bah, c'est peut-être parce que. Peut-être parce qu'on a une version, on a une vision un peu archaïque de la manière d'apprendre le son et la pour les gens d'aujourd'hui, hein, et la production de la musique, mais je pense que évidemment on peut pas comparer ce qu'on fait avec des gens comme lui, mais on peut se dire que c'est passé par cette espèce de filtre GarageBand, justement, avec
leur musique, ou en tout cas cette musique-là.
La musique de cette époque-là, et la musique de Morricone, on l'a beaucoup, beaucoup écoutée, et on la restitue de manière un peu barbare, parce qu'on est de mauvais musiciens et de piètres compositeurs, mais c'est ce qu'on appelle une influence, quoi. C'est la plupart du temps inconscient, parce que on s'est pas dit tiens on va donner des notes morriconiennes à l'album. C'est juste que moi j'adore jouer les fuzz comme dans ce disque que j'écoutais quand j'étais petit, c'est-à-dire sur une corde avec deux ou trois notes, comme dans les grands riffs d'Il était une fois dans l'Ouest, et j'adore la mélancolie dans la musique et Morricone s'est blindé de ça, quoi.
D'ailleurs, vous ne vous êtes dit ça pour rien, c'est-à-dire à la fois vous ne vous êtes pas dit il y aura du Morricone sur ce disque, comme il y aura un petit peu de Velvet, un petit peu de Melody Nelson, toutes ces choses-là semblent être là parce que juste vous êtes là et vous êtes fait ça.
Et je crois que ce qui nous sauve, c'est qu'on a une approche un peu naïve de tout ça et qu'on se pose peu de questions Enfin, je crois que le secret, moi, j'avais lu ça. Moi, j'adore les bios. J'avais lu ça dans une bio d'Aznavour qui disait que il fallait surtout faire des disques pour soi et pas du tout pour le public. Et je pense que c'est vraiment une règle, une idée qui nous a vachement aidé, parce qu'on fait vraiment les disques pour nous d'abord et sans jamais se poser la question de comment ça va être reçu par le public ou la critique. Et du coup, ça m'a vraiment décomplexé dans l'idée d'oser en fait faire un disque qui puisse rappeler de manière un peu barbare Morricone et New Order et le Velvet.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Ce disque, il est vraiment très très beau. Il s'appelle Shadow People. Il est paru sur le label Because et vous serez en concert. Vous serez en concert à Nantes le 20 avril, le 21 avril à Penmarc, le 25 avril à Périgueux, le 26 avril à Toulouse, le 27 avril à Pau, vous n'avez pas arrêté, le 28 avril à Saint-Sébastien, le 1er mai à Manchester, le 2 mai à Newcastle, le 3 mai à Glasgow, le 4 mai à Leeds, le 5 mai à Londres, la classe. Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus du tout rire ?
Qu'est-ce qui me fait plus du tout rire ?
Mais plus du tout.
Plus du tout rire. Ouais, un truc qui me fait plus du tout rire, c'est les haters sur Internet. Voilà, ça me fait... en ce qui nous concerne et en ce qui concerne...
les musiciens en général.
Les musiciens en général. Je trouve ça... D'ailleurs, je les invite à venir m'en parler en face à l'occasion.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait vraiment bien rigoler ?
C'est Madame Cruss, notre bouchère préférée, qui est au fond, au bout de notre rue.
Elle vous fait bien
par
rire.
Par son accueil quasi quotidien, qui a toujours des réflexions hyper drôles. Et voilà, c'est une des personnes qui me fait le plus rire aujourd'hui.
Par les temps qui courent, où s'allonger pour écouter votre disque ?
Sur un canapé, avec un café.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous voulez, sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Diana Alcitanière à la réalisation Milena Elig, Jeanne Aléos, Corinne Amar et Romain de Bec de Gave. M'aide à penser cette émission, je réponds @marie-richeux sur Twitter, mais uniquement aux lovers.